De Disneyland à Ice Island.
Du Palais fédéral au Capitole.
Toute l'actualité.
Ou presque.
Dans Carrément Méchant. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette deuxième saison de Carrément Méchant. Nous commençons aujourd'hui avec une première émission le 7 octobre 2015. Salut Émilie.
Salut Yann, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, je vais très très bien. On se retrouve maintenant une fois par mois.
Absolument, et puis après une longue absence.
On a eu beaucoup de travail et ça m'a pas mal arrangé quand même qu'on annule le numéro d'il y a 3 semaines, 1 mois, donc c'était quand même pratique pour tout le monde, il faut bien le dire. Dans cette émission, on va continuer à faire le tour de l'actualité internationale, suisse, ultra-locale, avec notre petit ton
décalé. J'aimerais
bien
que tu m'expliques ce que tu veux dire par ultra-local, Yann, parce que je sais pas si c'est clair pour les auditeurs, mais...
C'est quand on parle par exemple d'une élection ou d'un vote qui a lieu à un niveau communal, enfin un truc qui concerne que 3000 personnes et qu'on trouve ça rigolo, tout simplement. Qu'il s'est passé un truc rigolo et du coup on vous en parle parce que nous,
du coup,
le but.
On va faire des blagues.
Voilà, nous scrutons l'univers et plus particulièrement la planète Terre et nous reprenons tout ce qui est rigolo dedans. et on commence par quelque chose de très rigolo parce qu'on parle de terrorisme.
Absolument, le terrorisme c'est marrant. Mmh. Et nous ne sommes pas les seuls à penser ça d'ailleurs. Du coup, on va commencer par attaquer ce 16e épisode de Carrément Méchant en rigolant un bon coup et en allant s'amuser. Devinez où ? Yann vous a donné un indice. Je vous parle évidemment de l'État islamique.
Oui !
Ou alors ISIS de son petit nom.
Oui !
Eh bien, selon ISIS, la vie dans le califat, c'est le pied. On y rit, on y chante, on y boit. On n'y boit pas. Mais on s'y amuse, en tout cas, on s'y amuse dans des parcs d'attractions. Oui, en effet, le groupe terroriste a publié des photos de deux nouveaux parcs d'attractions qu'ils ont ouverts près des villes de Fallujah en Irak et de Raqqa en Syrie, qui est la ville au cœur de l'État islamique qu'on pourrait appeler leur capitale. Donc des photos qui montrent des enfants souriants, des parents attendris, enfin, surtout des papas attendris, des kebabs qui grillent.
Généralement, c'est les bombardés qui sont attendris, mais dans une autre logique.
Voilà, ils sont un peu plus mous. Ne vous imaginez pas que ces parcs sont glauques ou, disons, gore, tels que proposant des activités à l'image de ce que fait le groupe terroriste, tels que décapiter ses ours en peluche, pommes d'amour au sein d'otages occidentaux ou la Maison Blanche hantée. Non, 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 les attractions ici sont, à un peu de rouille près, les mêmes que chez nous. On y voit des tasses à thé tournantes, une grande roue, des voltigeurs. Et j'en oubliais presque les barbes à papa, mais par contre, dans les parcs d'attractions nazis, elles sont un peu plus littérales que de par chez nous. Vous vous demandez peut-être pourquoi un groupe terroriste, qui semble plutôt occupé à crucifier des gens et à dégommer des ruines antiques, ouvre un parc d'attractions. Ce n'est pas, malheureusement, pour que les bourreaux puissent venir s'y détendre après une longue journée de travail, mais plutôt une étape assez logique dans la stratégie d'ISIS. En effet, le groupe joue sur deux tableaux. Le premier et le plus important est de représenter le califat comme un état merveilleux, un état utopique, dans lequel il fait bon émigrer. Alors, considérant les autres vidéos qu'il publie, il va leur falloir peut-être un peu plus que des parcs d'attractions pour faire oublier au public qu'il s'occupe principalement de dégommer des gens. Mais également, en fait, ISIS s'occupe de construire son califat tel un joli petit état comme de par chez nous, dans lequel il est important d'offrir aux gamins un endroit où s'amuser. Alors, en effet, pourquoi pas ? Mais la moindre des choses, ce serait que ISIS s'occupe également d'assurer des services publics fonctionnels tels que éducation, soins médicaux, logement, ainsi que, par exemple, ramassage des déchets. Et puis, des récentes interviews de civils qui vivent dans les zones occupées par ISIS ou qui ont récemment émigré ou s'en sont échappés ont en effet laissé dire que la vie sous le califat était vachement moins drôle que ce qu'on pouvait voir dans les vidéos de propagande. Et notamment que le groupe terroriste, en fait, s'occupe surtout de recruter des soldats étrangers qui, eux, sont privilégiés par rapport aux locaux. Ils ont un accès privilégié aux meilleurs hôpitaux. Ils reçoivent logement, femmes et soins médicaux, éducation gratuite pour leurs enfants. Alors, réduire le niveau de l'éducation.
J'adore que femmes soient quelque part entre logement et soins médicaux.
Oui, oui, alors c'est vraiment quelque chose qu'on te fournit quand tu arrives là-bas. Oui, oui.
C'est merveilleux.
Non, bah, sans
quel
ça...
Quel beau... Alors, pays, on va pas dire ça, mais quelle belle région.
Voilà. Ça, c'est l'image que ISIS veut effectivement faire croire aux gens du monde entier pour qu'ils émigrent chez eux. Par contre, dans ces interviews et dans ces reportages, nous apprenons de façon relativement peu surprenante que les libertés individuelles sont inexistantes, que la justice est administrée par un régime de terreur et de répression, que les services publics sont dysfonctionnels, voire inexistants, Mais ce qu'Alsis veut nous dire avec ses parcs d'attractions, c'est que malgré tout ça, il ne sera pas dit qu'un djihadiste ne sait pas s'amuser.
Exactement.
À propos d'amusement, Yann, je te propose de nous envoyer dans le pays de l'amusement, le pays qui a certainement inventé les parcs d'attractions.
Oh là oui.
Je parle bien sûr des USA.
Exactement, allons chez les vrais Mickey pour le coup, et on va aller prendre des nouvelles de la primaire républicaine, évidemment, parce que tout le monde veut accéder à la présidence, c'est un petit peu l'enjeu du moment en politique américaine. Deux batailles font rage, celle de l'investiture démocrate et celle pour l'investiture républicaine. Dans le camp républicain, c'est même une véritable fiesta, puisque plus d'une quinzaine de candidats sont effectivement déclarés et actifs. S'ils sont tous derrière Donald Trump dans les sondages, à se battre pour des miettes de points de pourcent, peu sont ceux qui ont abandonné la course à la Maison-Blanche. Mais à peine deux mois après s'être déclaré, l'ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, a récemment lâché l'affaire et décidé de se retirer, afin justement de laisser plus de chance à ses petits camarades de rattraper l'ogre Trump. Toutefois, abandonner une candidature à la présidentielle, c'est des démarches. C'est pas évident. Surtout quand un groupe de riches donateurs qui croyaient en vous se retrouve subitement sans candidat à promouvoir. Et c'est bel et bien le cas de Rick Perry, dont le super PAC se retrouve sur le carreau alors qu'il lui reste plusieurs millions en banque. À ce stade, vous me demandez « Wow, Yann, un candidat à la présidentielle américaine ? Je pige ce que c'est. Une primaire ?» Capiche. Abandonner la course, no problemo. Mais un super pack, qu'est-ce à quoi ? Qu'est-ce à dire ? C'est un paquet surprise ! Alors, un super pack, c'est un moyen de financer de la communication et des publicités politiques, alors qu'on n'est pas un parti politique ou l'équipe d'un candidat. Aux États-Unis, c'est légal depuis 2010. En gros, ça permet de dépenser une quantité non limitée par les lois sur le financement des partis et les campagnes au profit de publicités pour tel ou tel candidat ou contre tel ou tel adversaire de son candidat chouchou. Et ça existe autant pour les républicains que pour les démocrates. À cela, il y a une règle tout à fait faux cul. Le Super PAC et l'équipe du candidat que le Super PAC vient à soutenir ne doivent pas travailler de concert. C'est évidemment parfaitement stupide, parce que souvent, ce sont les anciens membres de la campagne du candidat qui la pilotent. Toutefois, donc, Rick Perry a décidé de se retirer de la course et laisse son Super PAC, le Opportunity and Freedom PAC, sur le carreau. C'est bien dommage pour eux. En tout, c'est 13 millions de dollars, dont 5 millions qui ont été versés par un seul donateur, qui sont SCF, sans candidat fixe. Austin Barbour, un des membres de l'exécutif du Opportunity and Freedom PAC, admet presque le caractère douteux de l'opération en expliquant ce qu'il compte faire dans les jours à venir. Je pense qu'il est exact de dire que nous n'avons pas totalement compris ce que la loi nous permet de faire à partir de là. Dès que nous aurons parfaitement compris la situation, nous pourrons proposer différentes options à nos donateurs. Darwin Disson, septuagénaire à la tête d'Affiliated Computer Services, une grosse boîte du secteur technologique américain, est l'homme qui a versé 5 millions de dollars parmi les 13 de ce super pack. Pour son fils Doug, le choix est tout fait. Il veut un remboursement pur et simple. Je vois venir les plus cyniques d'entre vous. Non, Doug Disson n'espère pas récupérer cet argent pour le jour où il héritera de son père. Non, il espère simplement que sa famille réinvestira dans le super pack d'un autre candidat. Et on en connaît peu qui cracheraient sur une telle somme, quand bien même fut-elle précédemment enfourée dans la poche de supporters d'un adversaire. En politique, c'est certain, l'argent n'a vraiment pas d'odeur. Et on avance maintenant avec... on passe à l'Est, avec ton chouchou, ton amour, la personne que tu as... qui fête son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs.
Oui, je suis désolée, mais je suis vraiment pas désolée, et je vais encore vous parler de notre cher ami Vladimir. Et avant tout, j'ai envie que vous vous joigniez tous à moi pour lui souhaiter un merveilleux 63e anniversaire. On le remercie de nous donner tant de matière pour notre émission, et on lui fait plein de bisous.
Oh, voilà. Voilà.
Pardon, je suis toute attendrie. Voilà. Alors Vladimir, qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a encore fait des siennes, le petit coquin. Vous ne pouvez pas être passé à côté de la nouvelle. La Russie a décidé de mettre son grain de sel dans le conflit syrien. Et par grain de sel, je veux dire des putains de bombes. En effet, tel ce gosse insupportable que vous connaissez tous, celui qui se comporte comme un ange en société et qui casse tout dès que les adultes ont le dos tourné, Vladimir était présent à la 70e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Il y a fait un joli discours, il y a rencontré Barack Obama, bon, on ne peut pas dire que la rencontre fut exactement chaleureuse, mais enfin, elle a eu lieu. Puis, il est rentré à Moscou et a balancé les bombes sur la Syrie. Non, il ne l'avait dit à personne. Petit coquin. Enfin, je précise quand même, à son honneur, il a averti les Américains une heure avant le premier largage. C'est-à-dire, hé hey, les gars, en fait, je bombarde la Syrie, et d'ailleurs, ça commence bientôt, je dois y aller, salut. Et Obama était un peu là, what? Donc, personne ne s'y attendait. Et oui, c'est un peu embarrassant, mais c'est quand même possible dans le système international actuel de faire ce genre de choses sans que personne ne réagisse, enfin. Donc pour vous mettre up to date, je vais vous expliquer qu'est-ce que Poutine bombarde, ou plutôt qui est-ce que Poutine bombarde, puisque c'est là qu'on a quelques petits problèmes. Alors officiellement, Poutine bombarde l'État islamique.
Ouais. Ce qui en soi, voilà, normalement est censé créer un certain consensus au niveau international.
Absolument. Donc, alors, Poutine se présente comme le vaillant défenseur de la démocratie, de la laïcité, et qui se lance dans un combat contre l'abject terrorisme islamique que Obama est décrit comme étant trop lâche pour assumer.
Et comme on a vu avec la situation en Ukraine, Poutine est évidemment quelqu'un de très honnête et de très transparent par rapport aux activités de ses armées.
Oui, oui, oui. Et donc, puisque Obama est un couard, Vladimir vient à la rescousse. Par contre, officieusement, et puis en même temps pas tant officieusement que ça, puisque c'est un peu difficile de faire des choses officieuses quand on parle de bombarder des villes, Poutine a bombardé les rebelles syriens. Alors, qui sont les rebelles syriens? J'imagine que, de façon tout à fait compréhensible, vous êtes peut-être un peu perdus. Avec tous ces groupes qui sont rebelles, qui sont opposants, qui sont terroristes, on ne sait plus très bien qui est quoi.
Oui, voilà.
Alors, on sait peu de choses un peu plus précises par rapport à qui Poutine a bombardé, mais on sait que les rebelles qu'il a bombardés ne sont pas l'État islamique ni affiliés à l'État islamique. Certains font partie de groupes d'opposition laïque, c'est-à-dire non motivés par une religion et pro-démocratique. Et c'est là que le bât blesse. Certains ont même été entraînés par, je vous donne le mille, la CIA. Et oui, les Américains se sont quand même un peu infiltrés en Syrie, ont quand même supporté certains groupes d'opposition qui étaient, disons, les moins méchants, les plus gentils. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez.
Stratégiquement les plus utiles.
Voilà, stratégiquement les plus utiles, et surtout ceux qui étaient idéologiquement le plus alignés avec Washington. Et donc, ça fait un peu mal. Et puis, ce qui est certain, c'est que toutes les zones stratégiques qui ont été bombardées par Poutine appartiennent à des ennemis directs du régime d'Assad. Donc Assad, le président syrien, et accessoirement le BFF de notre cher ami Vlad. Donc, en plus de tout ça, si vous suivez encore, il y a eu un nombre considérable de victimes civiles. Je résume. Vladimir prétend combattre le terrorisme islamiste incarné par l'État islamique. Mais en fait, bombarde des gens qui ne sont en majorité ni terroristes, ni islamistes, ni l'État islamique, du coup. Deux choses à retenir dans tout ça. Selon la bonne vieille logique de « les ennemis de mon ami sont mes ennemis », Poutine est en réalité simplement en train d'aider Bachar el-Assad, de la façon la plus évidente possible, en bombardant ses ennemis, à annihiler les opposants à sa dictature. Et si vous avez suivi un tout petit peu le conflit syrien, vous avez peut-être compris que Bachar el-Assad n'est pas exactement un type sympathique dont on aimerait qu'il reste au pouvoir en Syrie. Et puis, deuxième chose, oui. Poutine bombarde des types que la CIA a entraînés. En Syrie, ça fait un peu mal, ça rappelle un petit peu la guerre froide, peut-être, hein? Non? Non? Ça vous dit rien? Ça vous dit rien. Mais enfin, ce qu'il faut toujours faire attention avec les métaphores de la guerre froide, c'est qu'il faut vraiment ne pas tomber dans la facilité et se laisser avoir par notre perspective de petits occidentaux, où on se disait, oui, les Américains, c'est quand même pas forcément les gentils, mais en tout cas les moins méchants, et dans tous les cas, ils sont dans le même camp que nous. Donc il ne faudrait pas se laisser aller à penser que ce sont les gentils Américains contre les méchants Russes, / Syriens, / Iraniens. Je vais vous prouver ça par un exemple concret qui s'est passé il y a quelques jours, la semaine passée, donc le 2 octobre. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Samantha Power, a déclaré qu'elle appelait la Russie à cesser immédiatement ses frappes en Syrie, en précisant que des victimes civiles n'allaient que créer plus d'extrémisme et de violence dans le pays. Jusque-là, très bien. On est d'accord. Le lendemain, en Afghanistan, les forces américaines bombardent, par erreur, un hôpital géré par Médecins Sans Frontières dans la ville de Kunduz. Tout ceci dans le cadre de la reprise de la ville après que les talibans et Asahi, donc la cité. Mmh. Bilan, 9 membres du personnel hospitalier tués, donc des médecins, des employés de Médecins Sans Frontières, des civils, et des dizaines de patients blessés, sans compter les dommages faits aux infrastructures médicales.
C'est con.
Alors certes, le conflit afghan n'a pas grand-chose à voir avec le conflit syrien, mais la politique du « fait ce que je dis, mais pas ce que je fais » semble être décidément un adage bien trop adapté à la politique étrangère américaine.
Mmh, effectivement, effectivement. C'est assez triste de voir...
C'est plutôt triste, ouais.
Qu'on peut en être là, et franchement, la façon dont les bombardements sont aujourd'hui gérés par n'importe qui, et ça date pas d'aujourd'hui, hein, mais les civils qui tombent sous les bombes, ce genre de choses. Enfin,
c'est quand même un peu gros de dire « Oui, Poutine, c'est un salaud, il bombarde des civils en Syrie, et puis... »
Voilà. Personne ne fait de réelle politique autre que Poutine, quoi.
Et puis en cachette, on fait oups, non, c'est un hôpital. Bon bah tant pis.
Ah c'est assez, c'est effectivement assez terrifiant. Même si, enfin ça n'enlève rien au fait que Vladimir Poutine est un gros salopard, mais
oui,
comment dire, c'est dans d'autres considérations.
C'est un gros salopard qui a son anniversaire aujourd'hui, rappelons-le.
Joyeux anniversaire, gros salopard.
Voilà, c'est ça.
Ouais,
on va customiser la chanson.
Exact. Tu sais qu'elle est tombée dans le domaine public en plus.
Oui,
donc,
on peut faire tout ce qu'on
parfait.
Veut alors.
C'est parfait. Parfait. Eh bien, je vais t'emmener en Suisse. On va attaquer nos
d'ailleurs,
nouvelles Suisses.
D'ailleurs, je suis Suisse où je ne suis plus.
Exact. Ouais. Alors, hein.
Oui.
Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. On n'a pas pu se voir. Je trouve ça très frustrant. Enfin,
oui, mais je suis rentrée pour 24 heures à peu près.
Bref.
Et j'ai préféré consacrer mon temps à mon dentiste.
Scandale. Scandale.
Désolé.
Je vais quand même te donner des nouvelles de ton pays, du coup.
Alors, avec plaisir.
Parce qu'on a les élections fédérales à la fin de l'année, on va élire notre parlement, notre parlement qui à son tour va élire le gouvernement, ou plutôt le réélire, c'est généralement comme ça que ça se passe. Et donc la campagne pour les élections fédérales 2015 en Suisse bat son plein. Des dizaines de listes se défient dans chaque canton, histoire de remporter un maximum de voix et de remplir de leurs augustes séants les jolis sièges du parlement fédéral. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Mathias Reynard. Le bon Mathias...
C'est le Valaisan.
Le bon Mathias est un candidat socialiste dans le canton du Valais, exactement. Histoire de motiver le citoyen lambda à participer aux élections à venir, ce dernier a donc envoyé un courrier personnalisé à ses compatriotes valaisans. Toutefois, la lettre a déplu. Et il faut dire que Mathias n'a pas été très subtil. Le courrier démarque sur un très amical « Salut !» puis enchaîne les tutoiements. Cette méthode, très familière de s'exprimer aux gens, il la justifie en avançant que cela n'a rien d'anormal et que le Valais est un canton où nous avons le tutoiement facile. J'en déduis que, comme le dit la formule populaire, les Valaisans ont, eux, vraiment gardé les cochons ensemble. Mais ce n'est pas tout. Le courrier du candidat socialiste fait aussi mention de l'âge du destinataire. Et si on veut bien croire que tout le monde s'aime bien et se connaît en Valais, c'est à peine 330 000 habitants, ça demanderait quand même une sacrée mémoire de retenir l'âge. Un de ceux qui a reçu ce courrier s'est non seulement étonné de la présence de son âge sans la lettre, mais aussi de l'avoir simplement reçu, vu que son adresse ne figure pas sur l'annuaire. Alors, la provenance de ces données ? Le candidat affirme « Une partie des adresses utilisées provient de l'entourage, les autres des listes électorales disponibles auprès des communes. Ces dernières comportent des dates de naissance, ainsi que le veut la loi. » Accusé d'avoir instrumentalisé son métier de professeur dans le but d'accéder et d'utiliser des données privées au bénéfice de sa campagne, Mathias Reynard a fait l'objet d'une dizaine de plaintes. Sa réponse ? Je savais qu'on m'attaquerait au moindre faux pas, donc j'ai pris soin de tout faire dans le plus strict respect de la légalité. Pour moi, ces insinuations selon lesquelles j'aurais peut-être récolté des données à travers mon activité d'enseignant sont des coups bas totalement diffamatoires. Notons que Mathias ne maîtrise pas bien le concept de rapport de cause à effet. Si on suit son propos au mot près, on en déduit que son respect de la légalité est causé par une méfiance envers ses adversaires politiques. T'aurais pu formuler ça autrement, mon gars, parce que là, t'es involontairement plus suspect que tu voudrais l'être. Et continuons en Suisse.
Exactement. Alors on va s'éloigner. À un moment, j'essaie toujours d'empêcher Yann de parler trop d'élections ou de parler trop de la France. Remarque qu'aujourd'hui, on est assez, on a pas mal de succès avec la France,
ouais.
mais on a un peu moins de succès avec les élections puisque tu nous parles que de ça.
Exact.
Du coup, moi, je vais vous parler un peu d'autre chose et je vais continuer à vous parler de faire la fête parce qu'au final, il faut quand même s'amuser un peu de temps en temps. Et je vais vous parler plus précisément de faire la fête à Lausanne. Lausanne, capitale de la Suisse romande, enfin, que les jeunes voient ne m'écoutent pas. Et surtout, capitale des nuits de Suisse romande, en fait. Lausanne est en effet la capitale de la fête.
Non, précisons qu'il ne se passe rien à Genève, donc par défaut.
Oui,
Voilà.
Mais Lausanne, c'est mieux. Non, disons que Lausanne s'est inscrite depuis quelques années pour diverses raisons comme étant the place to be en Suisse romande et offre une densité assez exceptionnelle pour la région de clubs, de bars, etc. Et donc énormément de gens viennent se bourrer la gueule à Lausanne. Alors, donc, les nuits lausannoises sont un peu mouvementées, ce que la municipalité, la police, etc., même le canton, commencent à trouver un peu dérangeant et essayent de gérer ça d'une manière, plutôt désespérée pour l'instant. Et donc, ils continuent de trouver des mesures appropriées et intelligentes. Mmh. Après avoir interdit la vente d'alcool dans les commerces à partir de 20h, enfin, sauf le vin, parce que le vin, c'est pas de l'alcool, c'est du patrimoine culturel, voyons.
Bonjour, j'aimerais deux bouteilles de patrimoine culturel, s'il vous plaît, c'est pour des amis.
Et donc, il y a eu un reportage assez marrant, juste après que cette législation soit passée, qui interviewait des jeunes en disant « Est-ce que vous considérez le vin comme un patrimoine culturel ?» Et les jeunes disaient « Ah ben non, enfin, de l'alcool, c'est de l'alcool, monsieur. Mmh. » C'était assez rigolo, enfin bref, on va pas trop, là. Je crois que je les ai assez embêtés avec ça. Mais donc, au-delà de cette mesure intelligente, la ville lance ce qu'ils appellent les correspondants de nuit. Ce ne sont pas des écoliers étrangers qui répondent à vos lettres uniquement après la tombée du soleil.
Mais non, ce sont des gens sobres.
Mais ce sont bien des gens qui sont employés par la municipalité pour, je cite, « apaiser les nuits lausannoises ». Comment ?
Oh.
Comment ? On ne sait pas. Qui ?
Comment on sait pas ?
On sait pas non plus. Par contre, on nous précise ce qu'ils ne sont pas. Ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des assistants sociaux, ce ne sont pas des éducateurs de rue. Mm. Les correspondants sont, je cite, « le chaînon manquant pour apaiser les nuits lausannoises ».
C'est ce que j'adore.
Et là, tout à coup, on imagine une espèce de primate.
Non, ils sont le good guy dans un film ou dans une série, tu sais, quand ils vont dans un bar et t'en as toujours un qui fait « Non, tu as trop bu ». Calme-toi, Georges. Ils sont ce gars-là et en fait, ils ont beaucoup trop regardé ça et ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un mec ».
C'est un peu... Mais même pas, parce que c'est même pas des éducateurs de rue, donc ce ne sont même pas des Pascal le grand frère. Ce sont... Non. On ne sait vraiment pas qui c'est, à mon avis. Ce sont juste des mecs quelconques qui vont recevoir de l'argent pour se balader à Lausanne pendant le week-end. Et du coup, on espère qu'ils iront quand même boire des verres pour se distraire un peu.
Enfin, ça a l'air d'être un beau travail. Où est-ce que je m'inscris pour ça ?
Voilà. Alors, c'est juste... ça pourrait t'intéresser.
Bien sûr.
Mais donc, au-delà de ça, pour souligner encore l'importance du travail de ces correspondants de nuit, ils seront actifs les jeudis, vendredis et samedis. Bon, jusque-là, pourquoi pas. De 18h à 2h du matin. Alors, vous connaissez tous la célèbre cuite de 18h,
hein ? Oui.
C'est quand même le point culminant de...
Et mieux, je connais la soirée qui dure jusqu'à 2h du matin, mais qui s'arrête pile à ce moment-là.
Voilà.
Parce que le premier truc que tu te dis quand tu commences à dépasser minuit et que tu pars sur 2h du matin en te bourrant la gueule, c'est « Tu sais ce qui serait génial ? À 2h01, on va tous se coucher. »
Oui, c'est vrai que...
Je l'ai fait à chaque fois.
On imagine qu'ils ont consulté des études qui montraient qu'effectivement, après 2h du matin, il n'y avait plus personne dans les rues et que donc, tous les problèmes...
C'est le cendrillon des soulards, tu sais.
Les dégradations, la violence, etc. Tout ceci arrivait dans un laps de temps qui durait de 18h à 2h du matin. Alors, pourquoi pas. Donc, on nous précise, et on ne sait toujours pas comment ils vont faire ça. On nous précise uniquement qu'ils seront en très forte coordination opérationnelle avec tous les services de la ville impliqués. Et je ne résiste pas à l'envie de citer encore le communiqué de presse. De la police au sanitaire, en passant par les parcs et domaines pour les déchets sauvages.
D'accord, les déchets sauvages.
Les déchets,
aussi.
Donc...
Les bouteilles, les... Ouais.
Enfin non, moi j'imaginais plutôt une bouteille vide comme ça qui partait en courant, enfin qui... qu'on peut pas apprivoiser, je sais pas. Et donc ces correspondants de nuit seront en contact avec les responsables des déchets sauvages. Ce qui, on ne sait pas très bien comment finalement ça va les aider à apaiser les nuits lausannoises, mais finalement à la fin du communiqué de presse, on nous précise quand même pourquoi ils lancent cela. Et ils disent, nous voulons marquer la présence de l'autorité dans la vie nocturne.
Oui, mais pas en mettant des flics parce que c'est trop d'autorité.
Voilà, alors donc les correspondants seront employés à 60%. Alors on ne sait pas si ça correspond en fait au pourcentage de temps de la journée et qu'ils passeront... Qui passeront à Lausanne, ou bien si simplement il y aura certains week-ends où ils ne seront pas là, parce que voilà, il faut aussi avoir des vacances. Hein. Ils auront un uniforme propre. J'accuse peut-être une formulation maladroite, mais c'est toujours mieux qu'un uniforme sale, hein. Donc au final, ce que la municipalité de Lausanne a choisi de faire pour apaiser ses nuits, c'est de donner de l'argent à des mecs qui portent un uniforme que personne ne connaît et donc probablement
mais qui
personne ne respecte, enfin qui est propre. Alors on peut
t'imagines, disperser, les uniformes propres arrivent. Enfin bon, bref,
voilà.
Mais...
Voilà, donc ces types qui n'ont pas d'éducation, pas de formation particulière, se baladeront à Lausanne les soirs de week-end, tout ça pour diminuer les violences, ou en tout cas le nombre de gens qui font la fête à Lausanne, ça me paraît un peu contre-productif.
Ça paraît un peu idiot de rajouter encore des gens là-dedans, parce que la première chose qu'ils
voilà.
ont envie d'avoir faire, c'est de boire.
Puis aussi, quand ils se rendront compte que on ne sait pas très bien ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils finiront par aller boire des verres comme les autres.
C'est ça, c'est exactement ça. On va terminer par une dernière brève de campagne. On va retourner en Suisse pour les élections fédérales.
On n'a pas quitté la Suisse, Yann. Tu sais, Lausanne, c'est encore la Suisse. Je sais que c'est pas facile.
Va justement dire ça aux Bernois. comme je vous l'ai montré au cours de cet épisode, il y a plein de façons de faire campagne. En se faisant payer des publicités par de riches donateurs ou en parlant aux électeurs comme à son chien. Aline Trede, candidate verte aux élections fédérales, a choisi une troisième voie. En effet, la politicienne bernoise a décidé d'étendre sa campagne jusqu'à Tinder, l'application de rencontre basée sur un triage systématique des profils. Petite touche élégante, Trede demande à ce qu'on lui donne un cœur vert, à la fois en référence à son orientation politique et au symbole permettant à l'utilisatrice ou l'utilisateur de Tinder d'indiquer que le profil survolé lui plaît. Une fois l'utilisateur et la candidate mis en contact par l'application, cette dernière l'invite à la rencontrer pour un rendez-vous politique à l'occasion de sa campagne électorale. Certaines et certains vont être déçus. Tellement déçu que le 27 septembre, le profil d'Aline Trede s'est fait suspendre.
Oh
en effet, un nombre suffisamment grand de Tinderiennes et de Tinderiens ont décidé de signaler son profil lorsqu'ils se sont rendus compte que ni une grande romance ni un coup d'un soir ne seraient à l'ordre du jour. Comme quoi, le monde politique a beau être rude, c'est le monde des bisounours comparé à Tinder. Voilà.
En effet.
Un côté un petit peu fleur bleue pour terminer
cet
épisode.
Il faudrait créer une application de rencontre pour politiciens stupides.
C'est ça, mais je sais pas, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais c'est
à c'est réfléchir chose qui... pour le prochain épisode.
Voilà, dites-nous dans les commentaires si
comment
jamais vous avez une idée.
Enfin, je sais pas.
Voilà.
Comment leur faire comprendre que c'est pas comme ça que ça marche de faire une campagne. Enfin.
Non, surtout pas quelque part où les gens cherchent. Clairement autre chose.
Voilà.
Enfin, je veux dire, tu peux faire une publicité politique dans un journal ou sur un tram, etc. Parce que tu peux penser que les gens vont être ouverts au message quand les gens sont sur une appli de rencontre. Je ne crois pas que ça marchera.
Ils sont là pour des motifs purement politiques.
Exactement. Même si c'était une tentative assez courageuse, hein, d'intéresser les jeunes à la politique.
Oui,
c'est quelque chose de nécessaire
en Suisse. Elle aurait dû aller jusqu'au bout. De son histoire, et puis
c'est-à-dire de les convaincre un par un
personnellement, voilà, avec tout son corps de voter pour
elle.
Ou alors, Tinder,
vous noterez que c'est pas le mec de l'équipe qui a proposé. Vous notez que c'est pas le mec de l'équipe qui a proposé ça. Moi je dis ça, je dis rien. Très bien,
oulala,
merci beaucoup.
Oulala. Alors finissons cette émission sur une touche sexiste de la part de Yann.
Mais non, justement pas. Je faisais justement remarquer que c'était pas le cas. Oh, c'est
mais
pas
le
possible,
fait que
ça.
Tu l'aies pas remarqué en fait.
Quoi ? Mon dieu, mais tu veux dire par là que c'est. Ah,
je propose
c'est structurel.
Qu'on règle nos différents.
C'est compliqué la sociologie, mes amis. Mais.
Absolument.
Merci de nous avoir suivis pour ce 16e épisode. Vous le retrouvez sur radiokawa.com.
Qui a d'ailleurs un site internet tout nouveau, tout beau, tout neuf, tout frais.
Merci. Mais oui. Et vous pouvez d'ailleurs même donner, si vous aimez Radio Kawa, si vous aimez Carrément Méchant et nos autres émissions, donner à notre Patreon pour pouvoir soutenir le développement continu de nos activités. Donc, sur ce, on se dit au mois prochain.
Au mois prochain.
En début mois de novembre, voilà, ça devrait être le... Je peux déjà le dire, c'est bien ça, maintenant, je peux vous le dire, ce sera le 4 novembre 2015. D'ici là, passez bien un excellent moment sur Radio Kawa, et à très vite, ciao.
Ciao, ciao.
Oh mais dis donc, ce paysage culturel est bien trop fourni. Je ne sais pas comment faire.
Alors comme ça, on est perdu dans ce monde postmoderne où tout n'est plus référence. grâce à Parodia Dravsody et à Radio Kawa, ne soyez plus jamais dans la panade. Offrez-vous à chaque épisode des parodies authentiques originaires des quatre coins du monde. Mais ce n'est pas tout. Découvrez tout le sous-texte des parodies grâce au magnifique fascicule audio de 30 à 45 minutes. Alors n'hésitez plus, écoutez Parodia Dravsody.
Merci Radio Kawa.
T'en as marre de voir des fautes d'orthographe et de lire des statuts bidons sur internet? Tu veux apprendre aux gens à enfin parler français? J'ai l'émission qu'il te faut, ta gueule. Ouais, c'est le titre. Tu l'écoutes, tu la partages, ta gueule, une émission Radio Kawa.